Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Michel Audin. Tu te décris comme historienne, mathématicienne ou écrivain. Écrivaine, il faut dire.
Disons écrivaine.
Écrivaine, d'accord. Une chose qui t'intéresse beaucoup, c'est bien sûr les questions historiques en lien avec la science. Et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on discute de la science pendant l'occupation allemande. Je crois que tout le monde connaît à peu près les dates de l'occupation de Paris, mais est-ce que tu pourrais les préciser pour commencer?
Disons, ça commence en juin 1940.
J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités.
Paris est occupé, et puisqu'on parle de Paris, ça s'arrête en août 1944. Mais bon, pour le reste de la France, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais bon, on parle de l'Académie des sciences à Paris.
Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré.
Le pays est administré depuis Vichy par le gouvernement de ce qu'on appelle l'État français, qui n'est pas une république, et qui est dirigée par Pétain. Et puis l'Allemagne exerce ses droits de puissance occupante.
Méfie-toi, ma Francine, de tous les potins du quartier, des ragots de la voisine, des cancans du laitier.
Pendant cette époque, il y avait ces fameuses lois juives.
Le statut des juifs.
Qui interdisent un certain nombre de professions aux juifs.
Premier statut des juifs, c'est le 3 octobre 1940. Donc, Pétain était très pressé d'agréer au désir des Allemands. Il y a eu d'autres versions ensuite qui étaient de pire en pire. Et puis, il y a eu même l'établissement d'un fichier des Juifs qui a mené au rafle de 41-42 et la déportation d'un grand nombre de Français juifs dans les camps de concentration nazis. Je vais juste citer un article du statut des Juifs d'octobre 40. L'article 5 dit « Les Juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes, directeur, gérant, rédacteur de journaux, revues, agents ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique. » Donc, en principe, cette exception semblait tolérer que les scientifiques juifs puissent publier leurs articles.
Est-ce qu'on a une idée quelconque de la justification de cette exception? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui ont écrit ces articles? De dire, ah, pourquoi pas, on va interdire aux juifs d'écrire dans des journaux, mais avec une exception pour les scientifiques.
C'est une bonne question. Peut-être qu'ils pensaient qu'il y avait beaucoup de bons scientifiques qui étaient juifs, je ne sais pas. C'est des publications qui sont lues par un nombre restreint de gens, dans lesquelles on ne va pas parler de politique, on ne va pas parler de choses comme ça. Donc. Mais de toute façon, ça n'a pas été appliqué tel quel. On a l'impression qu'un scientifique, même juif, pouvait continuer à publier. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu une censure allemande pendant l'occupation. Il y a eu des tas d'interdits sur les publications. Il y a eu des scientifiques français qui ont participé à la censure en cohérence avec la politique de Pétain. Et c'est le cas de l'Académie des sciences.
L'Académie des sciences, à l'époque, il y avait quelque chose comme 80 académiciens. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'académiciens juifs à l'époque?
Ah non, ça, j'en sais rien. En plus, je sais pas, appliquer le statut des Juifs et dire qu'il était juif.
Qu'Hitler soit mal avec Staline et que les Boches aient bombardé Madagascar.
Par contre, je peux dire que parmi les grands mathématiciens français du XXe siècle, il y en avait un qui était membre de l'Académie des sciences, qui était Jacques Adamar, et qui, lui, était juif. Il s'en est jamais, d'ailleurs, caché.
Peut-être que je peux dire quelques mots sur Adamar, qui était vraiment très, très important.
C'est un mathématicien extrêmement important par la qualité des mathématiques qu'il a faites, l'importance qu'il a faite, la diversité, le théorème des nombres premiers, etc., que je ne vais pas décrire là. Mais bon, c'était aussi quelqu'un d'éminemment respecté et respectable. Il était apparemment, c'est un homme extrêmement charmant et adorable, et tout le monde l'aimait.
Charismatique, on dirait aujourd'hui.
Oui, et puis charismatique, oui, et puis, mais aussi, je ne sais pas comment dire, pas dire gentil, mais vraiment extrêmement aimable. Les archives de l'Académie des sciences sont remplies de petits mots d'Adamar. À l'époque, il n'avait pas de téléphone portable, de SMS ou quoi, mais il y a des petits mots qu'il envoyait à tout le monde. Dans tous les dossiers, on trouve des petits mots d'Adamar. Est-ce que vous feriez un exposé dans mon séminaire tel jour? Il a inventé le premier séminaire de mathématiques en France.
Et donc, il a quitté la France.
Il a pu quitter la France, il a passé la période de l'occupation aux États-Unis. Il y a d'ailleurs eu Mais c'est pareil, on ne trouve pas ça dans les archives, c'est un bruit qui a couru, donc je ne peux pas être absolument sûre que c'est vrai, mais quand même, il semble qu'il y ait un de ses collègues académiciens qui ait demandé son exclusion, puisqu'il ne venait pas aux séances. Je ne vais pas dire de nom, mais bon, ça apparaît dans les souvenirs de Laurent Schwartz, qui raconte ça.
Tu as une idée de qui ça pourrait être ou pas?
Oui, bien sûr, je sais qui c'est. Ah. Mais on ne va pas le dire.
Moi, je te le demande, la TSF a des dangers de la sale propagande, des speakers étrangers.
À l'Académie des sciences, rien ne se dit. Il n'y a personne qui prononce le mot juif, par exemple. On ne peut pas dire. Si on regarde dans les archives, on ne trouve rien d'explicite. Mais je peux raconter deux ou trois choses qu'on trouve quand même. Déjà, il y a l'absence de réaction. Par exemple, Paul Langevin, qui était aussi... c'était pas la carrière d'Adamar, certainement, mais qui était quand même un scientifique bien reconnu et qui était bien aimé de tout le monde. Il a été arrêté au moment où il y a eu les manifestations étudiantes, le 11 novembre 40. Il a été arrêté et personne n'a protégé... Enfin, l'Académie n'a rien fait. C'est pareil pour Borel, Émile Borel, un mathématicien aussi...
Tu veux dire, n'a rien fait, au moins par écrit.
Voilà, donc il n'y a pas de trace écrite, c'est ça que je veux dire. On ne trouve rien dans les archives.
Parfois tu dégotes Stuttgart à la radio. Dis-toi que tu serais idiote d'en croire un traître mot.
Il y a eu un seul moment où il y a une trace écrite de l'application des lois antisémites. C'est au moment où Frédéric Joliot a été élu à l'Académie des sciences. À l'époque, la section de physique était assez à gauche, plus que la section de mathématiques.
Donc juste pour nos auditeurs, typiquement, d'ordinaire, on dit que c'est plutôt les mathématiciens qui sont de gauche, qu'on disait.
Oui, mais bon, à l'époque, la bande autour de Joliot-Curie, Langevin, etc., c'était quand même nettement plus à gauche que les mathématiciens, quoique Adamar était quand même assez proche du Parti communiste. Donc, on va élire Joliot. La section de physique a réussi à faire en sorte que dans le procès-verbal du comité secret qui a préparé l'élection, il y a les noms qu'on peut lire dans les comptes rendus, que tout le monde va lire, parce que c'est les gens qui sont candidats et pour qui on vote. Mais il y a aussi, dans ce registre des comités secrets, il y a aussi des noms qui sont ceux de Henri Abraham et Eugène Bloch, qui, autant que leur nom semble le montrer, sont en effet des Juifs. Et la mention, Monsieur Lacroix, c'est un secrétaire perpétuel, fait observer que cette liste comprend les noms de deux savants dont les travaux sont fort estimés, mais dont les lois actuellement en vigueur ne permettent pas l'élection. Il pense que ces noms ne peuvent pas, sans inconvénient, peut-être grave, être maintenus sur la liste. J'étais assez choquée par les inconvénients peut-être graves, sachant qu'il pense à des inconvénients pour lui, pour l'Académie des sciences. Je précise quand même qu'Henri Abraham et Eugène Bloch sont tous les deux morts à Auschwitz.
Les lois dont on parlait n'interdisaient pas l'élection d'un académicien juif, non?
Ah ça, je sais pas, je pense qu'elles interdisaient. On n'avait plus le droit de rien. Bon.
Faut pas, Francine, te laisser dégonfler par ces discours nazis.
Et puis, il y a aussi les publications. Alors, donc, on revient aux publications dont j'ai parlé au début. Alors, bon, on a commencé par faire disparaître les prénoms trop juifs. Donc, on voit, la règle, c'est que les notes compte-rendues sont signées de prénoms, non. On voit des prénoms qui disparaissent, des choses comme ça.
Quand on met des initiales ?
Je crois me souvenir d'un géologue qui travaillait sur les sources géologiques des événements qui sont racontés dans la Bible et qui... Il avait un prénom qui était un truc genre Yaakov, quelque chose comme ça, et ça, il est devenu Y.
Le fureur d'une voix tendre nous redit chaque samedi, je ne veux plus rien prendre, maintenant que j'ai tout repris. J'adore l'Angleterre, j'adore les Français, pourquoi me faire la guerre quand je veux qu'on me fiche la paix?
Je vais raconter l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Jacques Feldbaum, il est né en 1914, il était professeur agrégé de mathématiques, il a été démis parce qu'il était juif, donc il n'enseignait plus. Et il est allé à Clermont-Ferrand, où l'université de Strasbourg avait été évacuée, et il venait de Strasbourg lui aussi. Et il travaillait avec un professeur de cette université qui s'appelait Charles Eresmann. Je précise que Feldbaum était juif, mais que Eresmann ne l'était pas. Dans la suite, il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est comment on sait que Feldbaum est un non-juif et que Eresmann n'en est pas un. Feldbaum avait publié plusieurs notes au compte-rendu, et notamment un théorème très important en 1939. C'est le genre de théorème que tout le monde, dont on a tellement besoin que tout le monde l'applique et qu'on a oublié qu'il fallait l'avoir démontré avant. Donc je ne vais pas donner de détails, mais en tout cas c'était important. En 1941, il y a une note qui paraît au compte-rendu, qui est signée de Charles Eresmann, et la première phrase de cette note affirme que les résultats qui vont être exposés sont dus à la collaboration de l'auteur et d'un de ses élèves. Ils font suite à une note antérieure. Alors, si on cherche un peu, on s'aperçoit que la note antérieure était signée Eresmann et Felbeau, ce qui désignait assez discrètement l'élève en question comme étant Felbeau. Alors moi, quand j'avais commencé à travailler là-dessus, je pensais, parce que tout le monde me l'avait dit, puisque c'était écrit dans les livres, que Felbeau n'avait pas mis son nom sur la note pour se protéger, pour ne pas apparaître. En fait, c'est la première fois de ma vie que je suis venue ouvrir un dossier d'archives. C'était ici, à l'Académie des sciences. Et en effet, j'ai ouvert les pochettes de séance. Bon, l'archiviste n'a pas voulu que je le dise, mais je vais le dire quand même, qui était recouvert d'une poussière assez collante, qui montrait qu'elle n'avait pas été ouverte depuis 1940. Et en effet, ce n'était pas vrai. Ce qu'on m'avait dit, que Felbeau n'avait pas mis son nom. Felbeau avait mis son nom. Il y avait le manuscrit dans la pochette de séance. Il avait mis son nom. Le nom a été barré, remplacé par les résultats qui vont être exposés sont dus à la collaboration de l'auteur et de M. Jacques Felbeau, ce qui a ensuite été barré. Et puis, c'est devenu ce qu'on a dit avant. Voilà, donc l'académicien qui transmettait les notes voulait absolument faire passer la note. Il a beaucoup défendu Felbeau tout le temps. Il s'appelait Élie Cartan. Il a fait ce qu'il a pu et la note est passée comme ça.
Et on sait qui a barré.
Oui, c'est Élie Cartan. Clairement, il vient en séance, il parle... Ça prend plusieurs semaines. Il vient en séance, il parle de ça, on dit non, c'est pas possible. Donc il enlève, il met... Et M. Jacques Felbeau, c'est de sa main, c'est clair. Il a fait ce qu'il a pu pour passer la note, mais la note est passée sans le nom de Jacques Felbeau. Visiblement, il voulait publier la note, mais l'Académie des sciences ne voulait pas de Felbeau dans ses publications.
Il ne voulait pas du nom de Felbeau.
Il ne voulait pas se foutre complètement de Felbeau, si tu veux mon avis. La suite, c'est qu'il a disparu comme auteur. Il a publié deux articles sous pseudonyme, sous un pseudonyme complètement transparent, qui était Jacques Laboureur. Felbeau, ça veut dire agriculture, laboureur. Oh, OK. Et qui ont été publiés par le journal de la Société mathématique de France, sous la houlette d'Henri Cartan, le fils d'Élie Cartan. Donc, c'était clair que la famille Cartan était avec Felbeau d'une façon ou d'une autre. Il a été raflé à Clermont-Ferrand avec des étudiants alsaciens. Et il a été déporté, il est mort, il était à Auschwitz, il a survécu à la marche de la mort en janvier 1945, il est mort quelques jours avant la fin de la guerre, dans un camp en Bavière. Bon voilà, c'est un grave inconvénient, comme disait M. Lacroix.
Alors j'avais lu, parce que tu as écrit un article là-dessus, qui s'appelait « Publier sous l'occupation », si je me souviens bien, que bien plus tard, lorsqu'il y a eu le jubilé de Eresmann, il y avait la liste de ses publications, et y compris celle qui était signée que par lui, et c'était l'occasion peut-être de rectifier un peu le passé, ça n'a pas été rectifié, n'est-ce pas ?
Non seulement il n'a pas pensé à dire « non, tiens, c'est l'occasion de dire que », puis même il ne l'a pas dit, puisqu'il y a des gens complètement respectables et au-dessus de tout soupçon, comme par exemple Michel Zismont qui avait écrit un livre sur la topologie qui disait que Felbeau n'avait pas voulu, donc il avait dû en parler avec Eresmann. Bon, moi j'en ai parlé avec Zismont, mais pas avec Eresmann.
Faut pas Francine, écoutez les racontes du plus barbant des barbares. Faut pas...
Je veux dire deux choses sur les publications des Juifs. Donc, il y a des collègues de Jacques Felbeau, des collègues de nous, des mathématiciens français et juifs qui ont publié dans les comptes rendus sous le nom d'un de leurs collègues. Ça, c'est arrivé aussi. Et puis... On parlait de l'Académie des sciences, mais il faut savoir qu'il y a quand même d'autres journaux que les comptes rendus de l'Académie des sciences qui, eux, ont publié des articles de mathématiciens juifs pendant l'occupation. Alors, on dit que c'est parce qu'ils étaient en zone sud, mais en fait, la zone sud, elle a été occupée à la fin 42, donc il n'y a pas trop de différence.
Voilà. Francine, te laisser embobiner par ces bobards.
Il y a aussi des mathématiciens qui, à l'Académie des sciences, ont procédé par pli cacheté.
Explique ce que c'est.
Un pli cacheté, c'est la chose suivante. Donc, vous avez un résultat super important, vous voulez absolument que ce soit votre résultat et celui de personne d'autre. Donc, vous écrivez le résultat sur un papier, on ferme ça dans une lettre, on amène cette lettre à l'Académie des sciences qui met un cachet de cire dessus et qui en enregistre sous le nom de l'auteur et puis avec un numéro. Et en principe, on ne peut pas l'ouvrir tant que l'auteur n'a pas demandé que ce soit ouvert ou alors c'est 100 ans après.
100 ans.
Et donc, par exemple, Paul Lévy, qui évidemment, comme son nom l'indique, était un mathématicien juif, français, un grand spécialiste de théorie des probabilités, complètement inconscient des dangers qu'il courait, je pense, comme ses amis ensuite l'ont raconté, qui était plus ou moins caché dans les alentours de Grenoble. Il avait envoyé au moins un pli cacheté sous son vrai nom, bien entendu, mais ça, on ne pouvait pas lui refuser ça.
Pour nous désarmer, sa voix câline, c'est pour mieux nous tomber dessus un peu plus tard.
Alors, un autre mathématicien juif qui est complètement hors standard, c'est André Bloch. C'est un polytechnicien, il a dû être blessé pendant la Première Guerre mondiale, puis il a tué toute sa famille. C'est-à-dire son oncle, sa tante, ses frères et sœurs, enfin, je ne sais pas, tout. Mais bon, après, il avait l'air... on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il a été déclaré fou et on l'a condamné à être dans un hôpital psychiatrique. Il est devenu un mathématicien. Il était dans sa chambre avec ses papiers, il travaillait, il était abonné à des journaux, il écrivait, il avait une correspondance, par exemple, avec Adamar. Il avait une correspondance avec des... Mais il n'y avait pas marqué sur son adresse que c'était l'hôpital psychiatrique. Il y avait juste l'adresse de l'hôpital à Saint-Maurice. Il vivait cette vie de mathématicien. Il a envoyé une note au compte-rendu pendant l'occupation. Avec sa note, il envoyait une lettre à Picard, qui était le secrétaire perpétuel, dans laquelle il disait « Intentionnellement, j'ai laissé un blanc après le titre », c'est-à-dire à la place du nom de l'auteur. « Mais si cela ne présente pas d'inconvénient, vous pouvez le remplacer par mon nom. Vous pouvez aussi le remplacer par un nom fictif, René Binot, par exemple. » Ou même réel, à votre guise. Dans le cas où elle ne pourrait paraître, il y aurait lieu de la conserver sous pli ouvert dans les archives de l'Académie. De toute manière, je serais très heureux d'être fixé aussitôt que possible, afin de savoir comment je dois organiser ma production scientifique. Picard ne lui a jamais répondu, mais il a publié la note sous le nom de Binot. Plus tard, il a utilisé un deuxième pseudonyme de Bloch qui était Second. Donc c'était... En fait, il n'était pas fou du tout. Il choisissait Second comme deuxième pseudonyme. Il a eu beaucoup de chance parce qu'il était dans un hôpital psychiatrique. Il était juif. C'était quand même deux choses graves pendant l'occupation. Et il a quand même survécu quelques années à l'occupation.
Je crois me souvenir que dans cette lettre ou dans une autre lettre qu'il envoie à l'Académie, il dit de là où je suis, je n'ai pas accès à des bibliothèques suffisantes.
Non, ça, c'est une lettre à Adamar. C'est dans la lettre à Adamar. Il écrit Adamar. Il correspond avec Adamar à propos d'une note qu'il a écrite. Mais en fait, Adamar ne savait pas où il était. Puis quand même, il s'est renseigné et finalement, il l'a appris. Puis évidemment, il l'a dit à tout le monde. Donc tout le monde le savait.
Donc il n'avait pas accès à Google.
Non plus.
D'accord. Vous avez entendu Fernandel chanter « Faut pas écouter les racontars », enregistré en 1939. Avant l'occupation allemande, donc. On y apprend qu'il faut se méfier de la propagande allemande. Pendant l'occupation, Fernandel a été plus conciliant avec l'occupant.
Bon, écoute, merci beaucoup, Michel, c'était très intéressant. C'est comme toujours, quoi, c'est ni noir ni blanc, quoi.
Ça s'appelle la zone grise.
Exactement, oui, oui.
On pourrait le dire, d'ailleurs.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.